C'est l'heure où l'arc-en-ciel se lève, édition 102 du 3 février 2025. Au sommaire, le mois de l'histoire des Noirs du point de vue des personnes noires queer. Investissement majeur du fédéral pour contrer la haine, la violence et l'intimidation envers les personnes des communautés de LGBTQIA+. La non-monogamie éthique à la chronique en toute fluidité et notre segment Culture queer est de retour.
L'heure où l'arc-en-ciel se lève, avec Denis Martin Chabot.
Le mois de l'histoire des Noirs revêt une importance spéciale cette année avec le vent d'intolérance et de haine qui vient pas mal du sud de la province, du pays, mais même de l'ouest du pays, on pourrait dire aussi. Et ça se complique pour les personnes noires qui sont également queer, car elles subissent une double haine. Le vent haineux qui souffle aussi sur les communautés de la diversité sexuelle et de la pluralité des genres se fait sentir pour elles. Pour en parler, je reçois Laurent Francis Ngoumou, doctorant en travail social à l'Université Laval, et Naomi Caron, directrice générale de la Fondation Massi Madi. Bienvenue tous les deux à l'émission.
Merci beaucoup. Bonjour.
Écoute, je suis pas branché sur le Zoom, là, je peux pas me voir, mais ça sera pas grave, on va le faire pendant ta réponse. J'aimerais commencer d'abord par vous demander quel pronom on utilise. D'abord avec toi, Naomi.
Moi, c'est elle, she, her.
Parfait. Et Laurent, juste pour être certain.
Aussi, all gender.
All gender. Alors, tous les gens sont bons. Avant de commencer, je pense, Naomi, je vais profiter de ta présence parce que j'en ai mentionné un petit bout en présentation d'émission. Il y a de gros, gros investissements qui ont été faits de la part du gouvernement fédéral la semaine dernière, dont de Femmes et Égalité des genres. Puis je pense que la Fondation Massi Madi, que tu diriges, a reçu une belle subvention.
Oui, en fait, c'est un fonds qui a été mis en place il y a déjà un an et demi, deux ans. Donc, ça a commencé 2023-2024 et ça se poursuit encore 2025-2026. Donc, on est vraiment contents. C'est un des fonds les plus importants pour la Fondation. Donc, c'est sûr, ça a donné un bon élan, là.
Oui, et surtout, parce qu'on va en parler, on va revenir là-dessus, parce que souvent, les personnes des communautés racisées arrivent dans des domaines où ils n'étaient pas, où elles n'étaient pas présentes. Et souvent, on leur demande de l'accompagnement, on leur demande de l'expérience, et ça, c'est plus difficile à trouver. Ça fait qu'on va revenir là-dessus parce que c'est une question qui va nous toucher. En fait, j'ai glissé un mot de tout ça en présentation, mais j'aimerais vous entendre à savoir quelle est l'importance particulière que cet événement du mois d'histoire des Noirs peut avoir là, pour les communautés queer et aussi noires.
Bien, en fait, nous, notre mission, c'est vraiment de promouvoir et de diffuser les arts des personnes afro-queer. Donc, l'importance de tout ça, c'est vraiment de contrer la discrimination, la haine et tout ça, en amenant un paysage un peu plus joyeux à travers l'art. Donc, vraiment, aller rejoindre d'autres communautés à travers l'outil, le médium de l'art, la beauté de la création.
Il y a beaucoup d'art hein, pendant le festival. Laurent, je voudrais voir avec toi, pour toi, c'est quoi l'importance du mois de l'histoire des Noirs pour nos communautés queer racisées?
Merci, Denis, de me passer la parole. La question que vous posez, elle est importante. Il faut le rappeler ici, le mois de l'histoire des Noirs, c'est pour tout le Canada, c'est pour tous les Canadiens, au fait. Ce n'est pas exclusivement réservé aux Noirs, c'est pour tous les Canadiens. C'est pour qu'ensemble, on se rappelle les luttes pendant que les personnes noires ont fait pour que le Canada devienne une société multiculturelle, pour que le Canada devienne une société inclusive et diversifiée aujourd'hui. Le mois de l'histoire des Noirs, c'est un rappel au savoir que les personnes afro-cuillères ont mis sur pied pour que le Canada brille de mille feux dans sa diversité. C'est pour rappeler au fait aussi les écrivains, au fait aussi tels que James Baldwin, Thompson Morrison, tels que Ruistin, pour rappeler au fait aussi les personnes qui ont marqué l'histoire des personnes afro-cuillères telles que on a par exemple en Afrique du Sud, on a l'évangéliste qui était décédé, j'oublie son nom,
Ah, le Desmond Tutu.
Desmond Tutu par exemple.
Oui.
C'est pour rappeler le combat de Desmond Tutu. C'est pour rappeler au fait aussi que des personnes afro au Canada, excusez-moi, je suis un peu insensé.
Oui.
Donc, c'est pour rappeler qu'au Canada, les personnes afro-cuillères continuent à être invisibilisées. Ça, c'est pour rappeler que les personnes afro-cuillères vivent encore dans la précarité. Je maintiens par exemple au rapport, je maintiens par exemple au rapport de Santé publique Canada en 2021. Je maintiens aussi, par exemple, aux recherches que j'ai menées avec Franco-Cuir en 2022, en 2023 et en 2024, les travaux que j'ai publiés sur les conditions des personnes afro-cuir francophones dans le côté anglophone, en situation de minorité.
Et là, ça devient une triple minorité, hein? Queer, noir et francophone. Et là, ça fait de l'intersectionnalité compliquée. Je vais
Oui.
t'interrompre parce que j'aimerais entendre Naomi, parce que ça nous amène à parler de cette montée de haine. Puis là, c'est vraiment de la haine, c'est même violent par moments. Et on parle pour les personnes queer, mais les personnes noires, les personnes racisées en vivent de ça. Et quand on est queer, ça commence à faire lourd, hein?
Effectivement, c'est sûr que nous, on combat à cause qu'on est vraiment dans l'intersectionnalité d'être noir et d'être donc des communautés LGBTQ+. On est vraiment isolé dans ce combat-là parce qu'on combat le racisme dans les communautés LGBTQ+. Et on combat l'homophobie dans les communautés noires. Donc, on est de chaque côté, on est toujours en train de combattre. Mais je pense que justement, c'est pour ça que la Fondation, elle a vraiment son besoin d'aide parce qu'on trouve ici une intersection, une communauté qui est très isolée et qui a besoin d'être rassemblée et d'être aimée et d'être, en bon français, je dirais,
Oui,
empowered,
oui.
de comme prendre sa place dans la sphère
Moi, je
culturelle
pense, on dit
et sociale.
empouvoirement, là, ça, je pense que ça
Ah
se
oui,
dit.
c'est
Oui,
ça.
ça se dit, là, je l'entends souvent. Tu sais, parce qu'il faut que la langue évolue aussi.
Oui.
Et puis, un petit peu, on s'est rencontrés la semaine dernière pour la première fois. C'était vraiment un addon, là, à une annonce, parce qu'on ne se connaissait pas avant. Puis moi, ce que j'ai trouvé intéressant aussi, tu nous parlais que souvent, les organismes culturels et autres disent, oh, ben, on est ouvert, on veut des projets de personnes noires, personnes racisées, mais il faudrait qu'il y ait 20 ans d'expérience. On a un problème là.
Exactement. En fait, c'est un peu... Je dirais, genre utopique, de penser que justement, maintenant qu'il y a une ouverture à intégrer, à inclure des personnes de la diversité dans certains corps de métier, que ces gens-là devraient déjà être dedans depuis des décennies et avoir une expérience qu'on leur a jamais permis. Donc, nous, on est vraiment là pour professionnaliser nos artistes, pour leur donner des opportunités pour qu'ils puissent éventuellement arriver à un niveau assez important pour qu'ils puissent s'intégrer et avoir des succès dans l'industrie générale.
Et ça recoupe quelque chose que tu m'avais déjà mentionné, Laurent, le travail pour les personnes noires, l'accès au travail, l'accès à des bons jobs, c'est pas si clair que ça encore en 2025, et c'est peut-être pire encore pour les personnes afro-queer.
Exactement, votre remarque est importante. Je me souviens, on a parlé de cela, en fait. Et parce qu'aujourd'hui, en 2025, malgré les subventions que le gouvernement a données aux organisations LGBTQ, le gouvernement libéral, malgré l'apport que le gouvernement apporte auprès des communautés, mais lorsqu'on lit les rapports, lorsqu'on lit les recherches qui ont été menées, on se rend compte que les personnes afro-cuir vivent de plus en plus dans la précarité. Et aussi, les personnes afro-cuir vivent de plus en plus dans la précarité. On se demande comment est-ce que, qu'est-ce qui arrive au fait? Pourquoi est-ce que les fonds ne parviennent pas à aider ces personnes, par exemple, à trouver un emploi décent, Pourquoi est-ce qu'on nous finance par la recherche, par exemple? Moi, je suis un chercheur, je travaille sur ces questions-là. Il n'y a pas de financement sur les questions de recherche en matière de, pour les personnes en FOQ. Et aussi, et lors des conférences, si vous ne nous tendez pas l'antenne, Denis, il faut lui dire félicitations à vous, vous pensez à nous, personne ne pense à nous. Parce qu'il faut, faut le dire aujourd'hui, à Montréal, par exemple, il n'y a pas une association à FOQ en dehors de Massimadi qui fait dans le cinéma et l'art
Oui,
audiovisuel.
oui, oui.
C'est important, mais il faut le rappeler qu'au Canada actuellement, une association à FOQ qui défend les personnes à FOQ au Canada, il n'y a véritablement pas. Donc, ça veut dire que on est invisibilisé et aussi il y a une sorte de ce que Mirada Afrique parlait d'injustice épistémique. Donc, ça veut dire que on n'a pas des mots pour expliquer pourquoi est-ce que il y a des pourquoi est-ce que les personnes à FOQ sont invisibilisées aujourd'hui? Enfin, je veux dire une chose, c'est que nous sommes là pour construire le Canada de demain. Nous sommes là pour construire le Canada dans sa diversité. On tend la main à tous les organismes, à toutes les associations qui veulent travailler avec des chercheurs afro tels que je suis, qui veulent travailler avec les personnes afro. Ils sont prêts à travailler pour ne plus rester dans l'invisibilité. Nous sommes là pour construire un Canada fort et meilleur. Donc,
Ça me ramène à parler de nos communautés queer, de la diversité sexuelle et de des pluralités des genres. T'as mentionné le racisme dans ces communautés. Comment tu le décris, ce racisme? Je pense qu'on parle beaucoup de racisme systémique. C'est pas un mot qui est à la mode, mais c'est un mot qui décrit les choses. Mais je te laisse aller là-dessus.
Ben, pour être vraiment concret et direct, on s'entend que c'est des questions qui tournent au niveau du sexe. Je crois qu'il y a beaucoup de racisme sexuel au niveau que on idéalise ou on. Je cherche le mot fantasme. Il y a un fantasme autour
Ah
de la personne
oui.
noire.
L'objectivisation.
Exactement, exactement. Au lieu de vraiment rencontrer une personne dans sa totalité. Donc, on est vraiment dans l'objectivisation, comme tu viens de le
D'en faire
dire.
un objet sexuel.
Exactement, mais qu'il n'y a pas cette approche de l'humain à l'humain qui manque beaucoup, souvent à beaucoup de membres de notre communauté qui se sentent utilisés, qui se sentent pas écoutés, qui se sentent pas inclus.
Ben là, je vais pas rentrer dans les détails parce que ça se dit pas en ondes, mais on voit l'homme noir comme une bête sexuelle. Et là, oui, je viens de comprendre ce que tu veux dire. J'espère que nos auditeurs vont comprendre. Ça ne me tente pas de rentrer dans les détails. Mais est-ce que il y en a qui le voient comme ça, mais il y en a d'autres qui vont dire, moi j'ai déjà vu ça. Je sais pas si ça existe encore, mais tu sais, pas de noirs, pas d'asiatiques dans les sites de rencontres. Chez les femmes, ça existe-tu ça aussi?
Ben moi, j'aurais tendance à dire moins, clairement.
Ah.
En bonne féministe comme je suis, je crois que la femme, naturellement, il y a une ouverture aussi qui est un peu plus profonde que juste physique. Il y
Oui.
a beaucoup, on s'entend, tu sais, c'est l'homme a quand même un besoin très fort physique, tandis que la femme, c'est un peu plus sensoriel, donc elle est capable de passer, mais je dis pas qu'il y en a pas. Il y en a, c'est sûr, mais on sent déjà, même par rapport aux participants de nos activités, on a beaucoup plus de femmes qui viennent de d'autres avenues que étant des communautés noires, de d'autres cultures. Ça peut être autant caucasienne, mais aussi asiatique, de tous les coins. Mais je dis pas que ça n'existe pas non plus chez la femme.
Je voudrais vous faire avancer là-dessus. C'est le mois de l'histoire des Noirs. C'est quand même pas récent comme événement. Est-ce qu'il y a eu une amélioration, et surtout pour les personnes noires ou les personnes noires queer ou afro-queer, excuse-moi, je vais reprendre ce terme-là. Est-ce qu'on peut dire qu'il y a une amélioration? Il faut quand même donner des bonnes
Mais
nouvelles aux gens,
oui,
non?
mais oui. Ben déjà, l'amélioration, c'est que je suis ici maintenant avec toi, qu'on peut avoir ces conversations-là vraiment ouvertement, qu'il y a pas de blocage. On est vraiment dans une conversation ouverte et honnête et empathique. Ça, c'est un grand, grand changement. C'est sûr qu'on peut aller encore plus loin, mais comme tu dis, il faut reconnaître les batailles qui sont gagnées, dont justement, comme on disait aussi, le financement, être reconnu par le gouvernement, avoir justement tous les autres alliés qui sont peut-être pas des communautés afro-queer, mais qui sont là, qui nous entendent, qui nous comprennent et qui nous supportent dans toutes nos activités.
J'ai oublié de le faire tout à l'heure en réponse à Laurent, mais je vais te renvoyer la balle avant de le faire. Les gens comprennent pas que les peuples fondateurs du Canada, bon, c'est cette fameuse notion qu'on remet en question parce qu'il y a quand même eu les Premières Nations avant nous, mais dans un des bateaux de Champlain, qui est venu ici avec lui dans les premiers voyages, Mathieu D'Acosta, c'était une personne, métisse, mais il était noir. Et je pense qu'on oublie ça, on le voit pas souvent, on l'a vu sur un thème récemment, mais c'est à peu près tout, là.
Ben c'est très important d'effacer des fois dans l'histoire, nord-occidentale, on veut effacer certaines personnes pour justement avoir un idéal politique et social. Donc il y a plein de personnes qui ont été là au début du fondement de notre nation, de tous les côtés. Et c'est ça, je pense que ça sert à ça, le mois d'histoire des Noirs, c'est de rappeler qu'il y a des gens de toute culture et de toute orientation qui ont fait partie du paysage. Moi, avec ton exemple, Alexandre Dumas, genre, oui. J'ai été vraiment choquée, adolescent, en fait, plus tard. Oui. Genre, on m'oblige à l'école de lire ses livres puis d'en apprendre sur lui. Puis c'est plus tard que j'apprends. En fait, c'est une personne, genre, justement, métissée. Oui. Genre, pourquoi on m'a jamais dit ça? Moi, comme personne métissée, ça aurait pu changer
j'ai
toute ma façon.
J'ai eu le même choc que toi.
De voir les choses. Oui. Donc,
Laurent, j'aimerais ça peut-être voir qu'est-ce qu'on pourrait faire de mieux pour reconnaître l'apport des personnes noires, mais des personnes afro-queer aussi, dans nos communautés.
Dans nos communautés, il faut éviter de les invisibiliser, éviter le tokenisme, en fait, parce que qu'est-ce que les gens font? Ils prennent des personnes afro-queer qui ne maîtrisent pas les enjeux,
Ah,
l'orientation.
puis ils en font des faire-valoir, finalement.
Exactement, ils font du tokenisme, en fait. Ça veut dire qu'il faut aller vers, parce que je me place comme Bell Hooks qui dit, et aussi Frantz Fanon qui dit, on peut être noir, mais on n'est pas, on est, c'est pas parce qu'on est noir qu'on peut poser des actes politiques. Ça veut dire que c'est parce qu'on est noir ou bien afro-queer qu'on comprend les enjeux. Et beaucoup de gens font du tokenisme, en fait, vis-à-vis des personnes afro-queer, et ils utilisent ceux qui ne maîtrisent pas les enjeux pour donner de la visibilité et pour invisibiliser ceux qui maîtrisent réellement les enjeux. Il y a quelque chose d'important que je devrais aussi rappeler, au fait aussi que on remercie le gouvernement fédéral d'avoir donné tant de fonds aux communautés afro, mais qu'est-ce qu'on remarque en 2025? De mon expérience en tant que chercheur, je remarque que les associations afro du Canada continue de fonctionner de manière hétéronormative. Ça veut dire que on va fêter le mois d'histoire des Noirs. On pense que les afro-queers sont des tabous, au fait. Ce sont des sujets non dits. Donc, de mon expérience, toujours, je parle à partir de mon expérience, là, on n'aborde pas les questions LGBTQ dans les associations hétéronormatives. Et pourtant, ils reçoivent des financements. Ils
Oui.
pouvaient, parce que les personnes afro-queer font partie de ces associations-là. Je dénonce, en fait, aussi la violence qui émane des églises réveillées, des églises réveillées détenues par certains afro-queer, je ne généralise pas,
Oui.
par certains afro-queer qui sont au Canada, qui montrent de l'homophobie, de la transphobie vis-à-vis de leurs enfants en disant qu'on arrive au Canada, voici, on veut rendre nos enfants homosexuels, transsexuels, de force dans les écoles. C'est le discours qui est
Ça,
lancé.
il faut combattre ça. Écoute, Laurent, je vais devoir t'interrompre parce qu'on arrive à la fin de notre temps, mais mon Dieu, on en apprend des choses à cette émission. Puis je vais vous le dire, hein, ici, on n'invite pas des personnes noires ou des personnes afro-queer parce qu'on veut se donner une bonne conscience. On le fait parce qu'on veut comprendre, puis on veut apprendre, puis on veut que vous soyez avec nous parce qu'il n'y a pas de nous et eux, il n'y a que des nous ici. Je vous dis ça tout de suite.
Exactement, ça fait que c'est anytime.
Naomi
Invite-moi,
Caron,
je serai là.
merci beaucoup. Merci beaucoup à toi, Francis Ngoumou.
C'est pour cela que je disais au départ que le monde de l'histoire des Noirs, ça appartient à tous les Canadiens, en fait.
Oui.
Donc, ce n'est pas simplement pour les personnes noires,
Même
parce que
moi,
nous,
comme personne d'âge, je dois nous
Canada.
arrêter parce qu'on doit aller à une autre entrevue. Merci beaucoup, Laurent. Merci beaucoup, Naomi.
Un
Merci
plaisir.
beaucoup. Merci
C'est
beaucoup,
l'heure
Naomi.
où l'arc-en-ciel se lève avec Denis Martin Chabot. en toute fluidité. Mieux comprendre notre monde.
Allô, Marie-Claude.
Bonjour, Denis Martin.
Alors, aujourd'hui, on va parler des relations qui ne sont pas nécessairement monogames.
Oui, on va parler, ça s'appelle la non-monogamie éthique. Alors, aujourd'hui, on va apprendre plein de nouveaux mots, si ce n'est pas déjà fait, dans le vocabulaire. Donc, de plus en plus, là, vous en avez probablement autour de vous, ou en tout cas, vous en entendez parler de la non-monogamie éthique. Donc, c'est quoi ça? Ça mange quoi en hiver? Est-ce que c'est juste une affaire de jeunes? On va regarder ça.
Donc, la non-monogamie, je relisais tout à l'heure mes notes, je partais pour dire la non-monotonie, mais bon, on va
c'est très bon.
Bon, d'abord, on va définir c'est quoi la monogamie, et donc on va savoir c'est quoi la non-monogamie.
Bon, il y a plusieurs formes, OK? Donc, je vais vous donner une définition comme plus générale. Vous allez voir, là, c'est comme un terme parapluie, comme un peu les queer, c'est un terme parapluie, donc ça peut regrouper plusieurs choses. Donc, en fait, c'est une structure relationnelle dans laquelle toutes les personnes impliquées consentent à avoir des relations soit romantiques, soit amoureuses avec multiples, donc avec d'autres partenaires, mais avec honnêteté, transparence, en communiquant ouvertement, donc entre les différentes personnes qui sont impliquées dans la relation. OK? Donc, c'est pas une tromperie, c'est pas de la polygamie, c'est pas... OK? C'est vraiment, donc, fait dans le consentement.
Ah, et le fameux mot consentement.
Ouais. Donc, c'est ça. Donc, souvent, on va entendre « moi, je suis poli ». Ou sur les applications de rencontre, on va voir polyamour ou on va voir les lettres là, de NME. OK? Donc, quand les gens vont mettre ça, c'est non-monogamie éthique. Donc la polygamie, à ne pas confondre avec le polyamour. OK? La polygamie, ça, c'est vraiment une personne qui va être marié, donc il y a un engagement marital. Donc, dans certains pays africains, il y en a encore, mais de moins en moins. Puis à ce moment-là, c'est souvent une seule personne, plus souvent qu'autrement l'homme, qui va être marié à plusieurs femmes, mais ces femmes-là n'auront pas le droit, elles, d'avoir des relations avec d'autres personnes.
Fait que la polygamie, okay? Ça marche, mais la polyandrie, ça marche pas.
Et voilà. Mmh. Exactement. Bravo que tu as du beau vocabulaire.
Ah, ça m'arrive des fois. Pas souvent, mais ça m'arrive.
Incroyable. Donc, ensuite, vous avez entendu souvent peut-être le mot « troupe » aussi, oui. Ou une triade. Oui. Donc ça, c'est trois personnes qui sont en couple ensemble. Donc, les trois sont amoureuses, chaque personne est amoureuse des deux autres. Mmh. OK? Donc, c'est un couple à trois, ce qui n'est pas le cas des personnes polyamoureuses. Donc, les polyamoureuses donc, vont avoir des relations avec d'autres personnes, mais ces personnes-là, entre elles, n'auront pas nécessairement de relations affectives ou sexuelles. Okay, ils peuvent être des amis. Et ça, ces personnes-là qui sont impliquées dans un groupe polyamoureux, on appelle ça comment, Denis Martin?
Je sais pas.
Un polycule.
Un polycule. Oh, wow. Oui, j'avais entendu ce mot-là. Ben, toi aussi, t'as du vocabulaire, ma chère.
C'est ça. Donc, le polycule, c'est toutes les personnes donc, qui sont impliquées dans les relations romantiques ou sexuelles dans un même groupe polyamoureux. OK? Oui. Donc, par exemple, si moi et toi, on est amoureux d'une même personne en commun, on va être des métamours.
Des métamours.
Donc, les méta, souvent, ils vont dire, admettons, ils vont dire, Denis Martin, c'est mon méta. Ça veut dire que toi, que tu es amoureux de la même personne que moi.
Pas de Facebook.
Mais toi et moi, on n'est pas amoureux ensemble.
OK. On est méta-amoureux, mais on n'est pas méta-amoureux de
Facebook.
C'est
mon méta. Oui, souvent, méta. C'est comme ça qu'on va l'entendre.
D'accord.
OK? Donc, encore là, j'ai dit que polyamour n'était à ne pas mélanger avec polygamie. Ça, on a compris. Ce n'est pas non plus un trouble. Ce n'est pas non plus de l'échangisme.
Oui. Hein? Qui est une pratique sexuelle, oui.
L'échangisme, c'est quoi?
C'est une pratique sexuelle, ça, l'échangisme, on peut dire.
Oui, c'est une pratique sexuelle, souvent qu'on va faire en couple avec d'autres personnes. OK? Où est-ce qu'il n'y aura pas d'engagement affectif, amoureux? Ça va être vraiment plus pour la sensualité, la sexualité, etc. OK? Okay. Et il y a aussi le libertinage.
Ah.
Hein, qui n'est pas non plus le polyamour. Le libertinage, c'est pas être un couple ouvert, comme les gens vont dire. Un couple ouvert, ça, c'est qu'on est en couple, donc on peut aller voir ailleurs, mais pas tomber amoureux, ne pas enrichir ou garder une relation amoureuse sur du long terme. OK? Ou du court terme, peu importe. Là, c'est vraiment plus pour la relation sexuelle ou le flirt.
Et jusqu'à
OK?
maintenant, je reviens toujours jusqu'à maintenant, ce sont des gens qui ont consenti à faire ça. C'est important de le répéter à chaque fois, là.
Merci. Bravo. Effectivement, couple ouvert, si l'autre n'est pas au courant qu'on est un couple ouvert, c'est pas un couple ouvert.
Non, c'est ça.
Hein?
C'est vers juste d'un bord du
Là, on va être
couvercle. Ouais.
vraiment plus dans, OK, dans tromper, dans, OK, dans, etc. Et évidemment, Denis Martin, parce que là, on va le faire sur deux émissions, hein,
Ouais. Oui, on
l'annonce
va revenir
de
là-dessus
Denis.
la semaine, le mois prochain. Oui, tout à
Éthique,
fait.
parce que c'est très vaste comme sujet. Donc, effectivement, ça se négocie tout ça entre deux personnes. On va en parler plus à la prochaine émission, là, parce qu'il faut commencer par comprendre le vocabulaire.
D'accord.
OK? Donc, on va entendre aussi des fois friend with benefits,
Benefits,
un
oui.
ami avec bénéfice.
Oui.
Donc, ça, c'est vraiment un ami ou une amie ou comment on dit ça? Un ami avec qui on va avoir parfois des relations intimes sexuelles, mais sans rapport amoureux. Et ce n'est pas non plus du polyamour, c'est une autre forme relationnelle. OK?
Oui.
Donc, tout ce beau monde-là, donc on a dit hein, que le polycule, c'est les différentes personnes qui composent le réseau un certain réseau polyamoureux. Et parfois, ces personnes-là, donc dans la consensualité, dans les ententes, etc., il y a des polycules qui se fréquentent, donc tout le monde va se retrouver en même temps dans un même lieu. Et il y a des polycules qui sont respectueux, qui savent que les autres existent, qui connaissent la nature de la relation, mais qui ne vont pas nécessairement se côtoyer. OK? Pour celles qui se côtoient, on appelle ça des polycules kitchen table. OK? Donc,
Ouais.
quand on est kitchen table, quand vous entendez ça, ah oui, moi, nous, on est kitchen table, ça veut dire que tout le monde va se retrouver autour de la même table, OK? Pour discuter ou vont faire de la bouffe ensemble ou vont fêter Noël ensemble, bon, que sais-je, mais que pas nécessairement systématiquement, mais qui peuvent se retrouver dans les mêmes lieux, qu'ils se côtoient, donc les méta peuvent se côtoyer entre eux, que les. OK? Et que ça, c'est ouvert puis que ça fonctionne. Et là, quand on est rempli, quand on a atteint notre maximum, quand on dit, bon, moi, j'ai pas plus de temps ou d'énergie émotive à consacrer, on peut dire qu'on est polysaturé. Et là, ce n'est pas les gras, c'est bien au niveau polyamoureux, donc qu'on est comblé, qu'on a atteint notre limite. Si on n'a pas atteint notre limite, ça serait polyinsaturé. Et
Excellent.
voilà.
Bon, ben, on a les définitions, puis le mois prochain, on va parler de comment ça fonctionne tout ça.
Oui, donc on ouvre notre esprit à toute cette belle diversité.
Au mois prochain. En fait, ça va être à la semaine prochaine parce qu'on va diffuser cette deuxième chronique la semaine prochaine. J'ai juste le temps de vous dire qu'on va vous revenir après la pause.
Au quotidien, c'est avec Denis Martin Chabot.
Le gouvernement de Justin Trudeau multiplie les annonces de soutien aux communautés de la diversité sexuelle et de la pluralité des genres. Jeudi, Linda Heffner, qui est Heffner, excusez-moi, je savais que j'étais pas mal prononcé un nom aujourd'hui, secrétaire parlementaire de la ministre de Femmes et Éducation et Égalité des genres Canada, concernant un investissement de 41,5 millions de dollars pour soutenir 106 projets visant à aider les communautés de LGBTQI+. Ce financement permettra de lever les barrières systémiques liées à l'orientation sexuelle, l'identité et l'expression de genre et de lutter contre la haine. Et mon Dieu, si on a besoin de ça beaucoup, beaucoup, beaucoup. Puis plus tôt mardi, l'organisme Ensemble pour le respect de la diversité a reçu 741 676 $, je suis très précis parce que son directeur général est aussi que moi, pour financer son programme de comité empreinte qui mobilisera 500 jeunes bénévoles. Alors oui, je reçois le directeur général d'Ensemble pour la diversité, le respect de la diversité, Raphaël Provost. Merci.
Merci pour l'invitation.
Ben écoute, tu es devenu régulier ici. Hein, finalement, on t'invite,
J'adore.
on
Je
aime
m'en
ça.
plains pas.
On a du fun ici. Puis on est content d'avoir des bonnes nouvelles, je vous dis, parce que les choses vont pas si bien que ça. Donc, deux grosses annonces. Nous y étions tous les deux à ces deux annonces pour nos communautés. Comment tu réagis à cet engagement-là?
Ça se prend tellement bien. C'est de l'espoir.
Ouais.
L'espoir aussi qu'il va y avoir beaucoup d'impact. Donc, nous, on le voit avec la confiance qu'on a eue de la part de Service Jeunesse Canada. C'est 6 emplois qui vont être créés. C'est près de 500 jeunes bénévoles qui vont être mobilisés dans les 2 prochaines années, qui vont avoir un impact dans leur milieu, à leur façon, pour lutter contre l'intimidation et toutes les formes de discrimination. Donc, de voir que le gouvernement, même en temps de tempête, se dit un peu minute, on va faire confiance à l'écosystème existant, nous, en contrepartie, et nous donner les moyens de réaliser une mission qui est essentielle, de lutter justement contre toutes les formes de discrimination, que ce soit le sexisme, le racisme, le capacitisme, que ce soit l'homophobie, la transphobie. C'est extraordinaire. Et l'annonce également de 41,5 millions arrive à un bon moment. On ne sait pas ce qui s'en vient dans les prochains temps. On se concentre sur le moment présent et ça, on va le prendre parce que c'est passager parfois.
Bien, justement, le contexte est difficile.
Exactement. Plus que jamais.
Qu'est-ce qu'on peut dire sur le contexte sexuel? Je sais que ce que j'aime beaucoup de Raphaël, c'est quelqu'un qui aime voir le bon côté des choses, mais on sait que ça ne va pas si bien que ça, là.
Ça va pas si bien que ça, puis c'est pas que pour les communautés LGBTQ+, le milieu communautaire souffre en ce moment au Québec. J'ai l'impression qu'on sait plus comment se faire entendre et de voir qu'on a quand même ce soutien-là. Quand je dis « je vois le verre à moitié plein », on va célébrer ce qui nous arrive de bon.
Tout à fait.
Mais j'aimerais aussi mettre en lumière toute la complexité du financement. Nous, ça a pris plus d'un an et demi avant d'avoir cette réponse-là dans les dernières semaines. Et je l'ai dit au ministre Guilbeault quand on a eu une rencontre dans les derniers jours, sans micro, sans caméra, je leur ai dit « faites-nous confiance. On vous a démontré déjà à travers le temps qu'on était essentiel, qu'on était un filet social qui avait un impact. Faites-nous confiance. Vous devez simplifier l'accès au financement pour des organismes qui ont déjà fait leurs preuves et qui collaborent avec les milieux. Donc, oui, je vois le verre à moitié plein, mais en même temps, j'ai envie de lever un drapeau que c'est complexe. Oui, il y a eu 106 projets qui étaient sélectionnés, mais parmi des milliers à travers le pays. Donc, beaucoup de gens qui ont été déçus. Certains l'ont même appris la journée même de l'annonce. Donc, ça, c'est aussi à considérer. Mais on va prendre ce qu'on a. Mais une chose qui est malheureuse souvent avec le communautaire, c'est qu'on s'est habitué à faire des miracles avec des miettes.
Ouais.
Mais il ne faut pas qu'on le prenne pour acquis, ça.
Puis le milieu communautaire, il n'est pas seulement sous-financé, il est mal financé. Parce que c'est
mal financé,
c'est un bon mot. Par projet. Il faut se réinventer à toutes les 3 ans. C'est compliqué, ça, quand on a justement que des miettes pour faire des miracles.
Exactement. Et c'est souvent dépendant du système politique en place. Quand ça devrait être au-delà de ça, le communautaire est un filet social extraordinaire au Québec. On doit investir parce que ça permet à beaucoup de gens de trouver des solutions. Moi, je le dis souvent au Québec, il y a une solution pour tout. Il faut parfois juste créer le pont. Et quand on finance bien les milieux communautaires, ça nous permet de bâtir ces ponts-là et non des murs entre nous. Et dans le contexte politique actuel et sociétal, bien, je pense que le communautaire, on doit le remettre de l'avant, que ce soit en itinérance, en hébergement, en soutien de toutes sortes. Nous, par exemple, comme sensibilisation auprès des jeunes, bien, si on nous fait un peu plus confiance, on va avoir encore plus d'impact puis on va peut-être avoir une meilleure société.
Il faut dire que souvent, le communautaire font les jobs que le gouvernement ne veut pas faire et à moindre coût.
En effet, on est des bons partenaires pour ça, mais je pense qu'il ne faut pas le prendre pour acquis, justement. Nous faire confiance, nous donner le moyen de nos ambitions. On n'attend que ça. Et je ne parle pas que moi, pour mon organisme, mais pour d'autres. Moi, je le prends, le 741 675
$. J'aime.
Mais c'est aussi très peu pour tout ce qu'on veut faire. Je vais prendre ça. Je ne vais pas cracher dessus, mais j'aimerais ça en avoir encore plus.
Rapidement, Raphaël, je sais que tu me dis qu'on ne sait pas ce qui s'en vient, mais bon, on a une petite idée
exact.
Que le gouvernement risque de changer à Ottawa. Ça ne serait peut-être pas un gouvernement aussi réceptif envers nos communautés. Ça t'inquiète?
Les jeux ne sont pas encore faits à 100
%. Ouais.
Tout peut bouger. On l'a vu dans les derniers jours, dernières semaines. On ne s'attendait pas à vivre ce qu'on est en train de vivre.
Ouais.
Donc, je vais focusser sur ce qu'il y a de beau. Il y a une mobilisation en ce moment qui est en train de se faire à travers le pays, qu'on n'avait même pas il y a à peine quelques jours, de voir que les provinces communiquent plus que jamais, se mobilisent, qu'il y a aussi des organismes qui n'avaient pas l'habitude de s'appeler le fond. J'ai hâte de voir comment ça va se passer. Moi, j'ai confiance, je garde espoir. Puis même si ces personnes-là sont peut-être élues, les restes ne disparaissent pas. Je ne disparais pas, mon organisme ne disparaît pas, les communautés non plus. Puis plus que jamais, je pense que la solidarité va notre réponse, puis je l'espère.
Bon, bien, sur ces paroles, tes belles paroles optimistes qui font du bien.
Voilà, toujours.
Merci beaucoup, Raphaël Provost.
Merci.
Vous écoutez Culture Queer, un regard sur les arts et le divertissement.
Ah oui, le premier Culture Queer de l'année 2025 et j'ai des invités et des chroniqueurs absolument formidables à vous présenter. Aujourd'hui, donc, on a, comme d'habitude, Donald Bilodeau, chroniqueur culturel. Merci, Donald, d'être là.
Ça me fait plaisir.
On va rejoindre notre chroniqueur littéraire qui est là aussi, Véronique Saint-Louis, à Québec. Et nos invités, ah là là, ça c'est... C'est deux personnes spéciales.
On peut faire des chroniques si tu veux aussi.
Oui, hein. Oui.
Improviser.
Alors, vous entendez Germain Chtouki, qui est comédien et qui est aussi directeur aussi du théâtre La Comédie de Montréal. Mmh. Et Luc Arsenault,
ben oui.
Pauvre Luc, qui est comédien, mais qui joue avec ce gars-là.
Oui.
Ça commence bien, hein?
Ah, mais c'est extraordinaire.
Alors, je vais quand même dire aux personnes qui nous écoutent présentement, je connais les deux. Puis ils sont tannants. Alors,
pour son plus grand malheur, il nous connaît.
Alors, je peux vous dire que Germain Chtouki, bon, il n'est pas gay, mais il fait partie de la communauté de LGBTQIA+. Hein?
Oui.
Oui, parce qu'il est arabe, donc A pour LGBTQIA+, c'est ça?
Oui, exactement. Je suis le plus.
Ouais, t'es le plus. Oh boy, ça commence bien. Alors, vous êtes ici pour me parler d'une nouvelle pièce de théâtre qui a commencé avant les fêtes,
oui.
Qui s'appelle « Mon meilleur ami ».
Mm-hmm.
Ça, c'est juste sur scène, hein? Ça peut pas être dans la réalité. Hein?
Ah non, mais c'est encore plus dans la réalité. On peut pas se rendre à ce qu'on fait sur scène si on n'était pas bon ami dans la réalité, je te promets.
Mais il est tannant pareil.
Moi, oui,
je sais, j'ai déjà travaillé avec lui, je fais que je sais qu'il est tannant.
Oui, oui, non, il est très tannant, ça va, mais je le sais.
Ouais.
C'est l'avantage. Je le sais, alors je suis pris au dépourvu. Oui, il me fout la trouille.
Ah, oui,
oui, je bloque. Oui, je bégaye. J'ai fini par faire du morse sur scène. Comme il me le dit si bien. Ah. Mais tout ça fonctionne parce que.
Et vous jouez souvent ensemble. Vous avez fait aussi le grand soir.
Ouais, exact.
Ouais. Alors, c'est quoi cette pièce, Mon meilleur ami?
Eh bien, c'est un auteur que j'avais découvert il y a 3-4 ans et qui s'est très bien écrit. Et ça parle de quoi? C'est deux personnages, c'est François et Julien. Il y a un amant, il y a un cocu. Et bien entendu, il y a la femme du cocu et oui. La maîtresse de l'amant qui apparaissent aussi, mais pas en personne physique. Et c'est toute l'histoire, c'est deux meilleurs amis et l'un sort avec la femme de l'autre. Et il arrive un jour et en pleurs, le cocu, il dit voilà, je suis cocu. L'autre, oh, il a peur. Et on essaie de savoir qui est l'amant.
Mm.
En sachant que l'amant, ben, en fait, c'est l'autre.
C'est
l'autre. Et donc là, le quiproquo démarre.
Wow.
Voilà.
Alors, toi qui es un comédien, une personne queer aussi, oui. Tu joues un hétérosexuel là-dedans.
Tout à fait.
Le cocu ou...
Ah oui, non, je peux te faire un cocu, moi, n'importe quand. Là.
Non, j'ai plutôt vu son physique avantageux, j'ai préféré qu'il soit le l'amant séduisant.
Voilà. Tu vois, je suis en fait celui qui coquifie les gens,
ouais.
Mais je pense que c'est ça, un bon acteur, c'est un bon acteur.
Ouais.
Hein? Sans vouloir me lancer des fleurs ou quoi que ce soit, on est dans la radio, personne ne me voit.
Mais tu joues dans plusieurs pièces de théâtre.
Oui, oui, oui,
Mais le grand soir, ça, je pense que ça a pris sa retraite là, pour un petit bout.
Ben écoute, on devait arrêter, on a fait la dernière le 26 de mémoire, oui. Puis ça marche tellement bien, on a tellement de plaisir les quatre sur scène à se retrouver, à faire nos niaiseries, qu'on se dit, bon, on n'en refait pas encore une juste pour le plaisir. Et donc voilà, peut-être qu'il y en a encore une va se faire en mars.
Voilà.
On attend de voir chacun, mais ouais, normalement on est sur la fin, mais c'est tellement... gai de jouer ce spectacle,
voilà.
Autant au niveau du public que nous, ouais. Qu'on a quand même du mal à faire un stop définitif.
Voilà. Oui, j'aime beaucoup la finale où vous êtes tous nous, toute la gang. Quel beau spectacle.
Et oui, c'est le grand jeu.
Voilà.
On ose. Et pourtant, c'est un spectacle pour 18 ans et moins.
Oui.
Hein?
Parce
qu'il y a un petit effet de mise en scène qui fait que... Oui.
Oh oui, c'est tout à fait très drôle, puis on ne va pas vendre la mèche.
Ben non.
Le théâtre, la Comédie de Montréal est dans le village, hein,
oui.
Dans le village gay. Quelle est votre relation avec la communauté queer?
Elle est très bien, elle est très cordiale. Je savais où j'ai installé le théâtre quand j'ai ouvert. J'ai choisi ce quartier-là parce que c'était un quartier vivant, dynamique, qui représente bien aussi nos côtés artistes. Il y a beaucoup d'artistes qui sont dans la communauté ou issus de la communauté.
Vous présentez beaucoup de spectacles.
Et on est en partenariat avec, voilà, effectivement, il y a Fierté littéraire qui vient très régulièrement depuis de nombreuses années.
Mm-hmm.
On a des spectacles de collectifs LGBT.
De théâtre ensemble,
etc. Tout à fait. On est effectivement ouvert à toute discipline et à toute personne qui a envie de partager et de montrer son art.
Et toi, Luc, parce que tu as joué des pièces de théâtre, que tu as monté genre avec des thématiques queer sur cette scène.
Moi, j'ai travaillé avec des compagnies. En fait, j'ai dirigé des gens de compagnies amateurs qui voulaient se cherchaient un théâtre. Mais moi, comme je connaissais déjà jamais la Comédie de Montréal, j'ai fait on va jouer là. C'est convivial, c'est intéressant.
C'est bien situé.
C'est relax, c'est très bien situé pour les gens qui n'ont pas de voiture ou quoi que ce soit. On est à deux pas du métro Berry ou Baudry, là, dépendamment
un ou l'autre, ouais.
De où on arrive. On est très bien situé. Et avec ma propre compagnie, compagnie qu'on a fondée il y a quand même quelques années, ben on joue régulièrement. En fait, d'ailleurs, on rejoue en fait à la fin février, là, les 27, 28, 1er et 2 mars, on joue Surprise, Surprise de Michel Tremblay, qui n'est pas joué très, très souvent. C'est trois personnages féminins, mais on sera deux gars et une fille pour le défendre.
OK. Donc, ça va être des personnificateurs.
On ne sera pas des drag queens, mais des personnificateurs.
Le contre-pied.
Voilà.
Luc, est-ce que tu as des projets dont tu voudrais nous parler?
Ben en fait, c'est drôle parce que oui, on a un beau projet. En fait, moi, je trouve que c'est un projet extraordinaire parce que j'adore travailler avec les gens qui ont envie de faire du théâtre, même si c'est pas leur métier. Et j'ai même approché justement cette année pour travailler avec le SARA, qui est le service d'aide. C'est à Anjou, en fait, à Montréal. C'est un service aux aînés, en fait, qui offre un atelier de théâtre qui mène à une production éventuellement. Mais cette événement-là fait en sorte que c'est pour les sortir de leur isolement. C'est des gens qui souvent qui sont seuls, qui viennent faire du théâtre, qui ont envie de faire du théâtre. Et là, j'ai oublié son nom de famille, Jacques.
Racicot, l'auteur.
Jacques Racicot, l'auteur, qui écrit depuis plusieurs années les pièces. Et cette année, ben, je veux dire le bon mot, j'ai le privilège, en fait, de monter cette pièce-là avec des gens qui ont envie d'en faire et qui se donnent vraiment. C'est vraiment très, très, très agréable.
Oui, c'est des 55 ans et plus.
Bon, ben c'est des jeunesses, ça, 55 ans.
Exactement, c'est le premier âge.
Rapidement, toi, jamais, tu as des projets en tête. Je sais que tu joues aussi des personnages queer de temps en temps.
Oui, ben, je fais un peu de tout, hein, surtout. Je vais pas vendre le punch, mais on a le spectacle de l'été, le coach de l'amour,
oui.
Qui est très loufoque, justement. Et c'est un personnage qui brise un petit peu les codes, on pourrait dire ça, qui a été mis en scène d'ailleurs par Luc. Là, on a démarré une nouvelle production hier qui s'appelle Vénus Beauté. Et juste reviens sur mon meilleur ami avec Luc. Ce qui est intéressant, c'est que je voulais prendre un challenge. C'est une pièce qui ressemble un peu à un Fedo. C'est bien écrit, ce sont des belles phrases, c'est les mêmes rythmiques avec le mari cocu, les portes qui claquent, tout ça. Donc c'est vraiment très très plaisant et on a énormément de choses qui s'en viennent, énormément de belles productions qui s'en viennent et des projets, toujours des ateliers théâtre qu'on a lancés, de nouveau de l'impro bien entendu, puis repartir un petit peu en tournée aussi parce que ça me manque, donc faire des productions en extérieur au Québec ou peut-être ailleurs aussi.
Alors, je rappelle la pièce de théâtre qui s'appelle
Mon meilleur ami.
Oui. C'est au théâtre de la Comédie de Montréal. Puis pour avoir plus d'informations, allez sur le site de la Comédie de Montréal.
Lacomédie.ca.
Lacomédie.ca. Merci à vous de rester.
Oui. Ah, OK. Non, c'est parce qu'on aurait un truc à dire, mais on le dira peut-être après, alors.
Ouais. Vous écoutez Culture Queer, un regard sur les arts et le divertissement.
Alors, on est dans cette deuxième segment. Juste rapidement, tu avais quelque chose à ajouter, Jamel?
Oui, c'est Luc, il a une minute. Je vais prendre 30 secondes. C'est que souvent, en fait, à la fin du spectacle, souvent, on va parler aux gens pour dire, si vous avez aimé ce que vous avez vu, parlez-en. Et moi, je tiens toujours à souligner à chaque fois que Jamel et Maïva, sa conjointe, qui font fonctionner à bout de bras, en fait, le théâtre de la Comédie de Montréal depuis plusieurs années, est le seul théâtre à Montréal qui n'est pas subventionné.
Ouais.
Les gens font toujours le saut quand on leur dit ça, mais c'est vrai. C'est un théâtre qui ne reçoit aucune subvention. Donc, nous, s'il n'y a personne dans la salle, ben on ne peut pas gagner notre vie.
Ouais. Mais c'est assez plein régulièrement chez vous.
Oui, règle générale, ça va bien, mais c'est juste pour faire réaliser aux gens, si vous aimez ça, souvent, parlez-en.
Ouais. Hein? Ouais, parce que là, il y a un changement d'habitude qui se fait, et les salles commencent à se vider tout doucement, les gens commencent à rester chez eux, puis avec tout ce qui s'en vient, donc on veut stimuler les gens pour leur dire, OK, venez nous soutenir.
Voilà.
Puis on salue Maïva, puis on la félicite
de me supporter, oui, c'est ça, tu peux le dire.
Nous sommes de bons amis, c'est pour ça que je me permets de taquiner. Mais moi, j'aimerais qu'on parle encore de théâtre, finalement, mais on va vous parler d'une autre pièce. Donald et moi, on est allés voir Contre toi, chez Duceppe. C'est en fait, c'est une adaptation du film Closer, qui est une pièce du Britannique Patrick Marber. Bon, le film aussi est de lui, Tradition de Fanny Britt. Une mise en scène assez spéciale. Parce qu'on a décidé de changer, la metteur en scène, Solène Paré, a décidé de féminiser le personnage de Dan, qui est une femme, donc.
Qui est une femme, c'est ça.
Parlons-en, justement. Comment tu as trouvé ça, toi?
Moi, j'ai trouvé ça très, très, très bon. J'ai adoré. J'ai adoré les personnages, j'ai adoré les acteurs. J'ai trouvé que chaque acteur avait sa place, vraiment. Est-ce que tu veux qu'on parle un petit peu du synopsis?
Ben, je pense rapidement, ça n'a pas beaucoup de temps, oui.
Très, très rapidement. Alors, Dan vole au secours de la belle Alice, frappée par un taxi. Entre elles naît un amour improbable et ardent. Alice admire Dan. Dan est fasciné par la jeune et mystérieuse Alice. Mais au travers de tout ça, il y a le personnage de Larry et il y a le personnage d'Anna. Alors, tout ça s'entremêle dans un ballet sensuel et ou nocif où, sous le joug de leurs pulsions, les protagonistes se traquent, mélangent passion et possession, confondant création, inspiration et exploitation. Et on peut dire que personne ne s'en sortira indemne. C'est très compliqué, c'est plein de rebondissements. Moi, j'ai bien aimé.
Ben, c'est une très belle mise en scène. Moi, j'avoue, oui. Je vais quand même avouer, j'ai vu le film avec Jude Law. Ça a été difficile pour moi
de dissocier
Jude Law d'Isabelle Blais, là, qui faisait Dan.
Oui.
Je trouvais qu'elle n'était pas aussi forte que David Boutin, mais ça, c'est peut-être parce que j'étais biaisé. Je ne vais pas faire une Nathalie Petrovski de moi, mais c'est un peu ça. Alice Pasqua, elle était géniale aussi.
Absolument. J'avoue. Oui, excellent.
Et puis, j'avais aussi un problème avec la mise en scène. C'était pas clair, les changements d'époque. Il fallait que j'attende comme 3-4 répliques pour comprendre. Alors ça, c'est mon petit commentaire pas gentil.
OK.
Donald Parnoux veux-tu ajouter quelque chose?
Non, pas vraiment.
Parnoux de Kamikaze, le livre d'Yves Marchand. Après ça, on va aller à d'autres livres
C'est la première fois que je parle de livres. Habituellement, je parle de films ou de chansons, mais là, j'avais envie de vous parler de Kamikaze.
Je pense que Brian ne va pas t'en vouloir cette fois-ci.
Il ne va pas m'en vouloir. Hein? D'autant que l'auteur est un ami, Yves Marchand, qui travaille toujours. Donc, il a écrit une brique de 712 pages. Alors, inutile de vous dire qu'il a mis énormément de temps. Quand tu travailles de 9 à 5,
les nuits sont courtes, en tout cas.
Oui, exactement. Alors, c'est paru aux éditions de l'Apothéose, ça se commande en librairie. C'est un roman de science-fiction, un roman de fiction futuriste, donc très rare, premièrement, un roman de science-fiction au Québec, il n'y en a pas beaucoup. Un roman de science-fiction gay au Québec, il y en a encore moins. Alors, la trame se déroule en 2527 environ et ça traite de l'arrivée sur la planète Tudo d'envahisseurs provenant d'un empire éloigné. L'intrigue s'oriente autour de l'amour passionné d'un kamikaze qui s'appelle Ariuk pour son bel asiatique qui s'appelle Jiro. De la description d'une société axée sur la paix et la liberté, des tentatives des colonisateurs pour dominer la planète Tudo et d'une solution inattendue et innovatrice au passage critique et satirique de notre société capitaliste et parodie des militaires, une approche inédite qui porte à réflexion pour ceux qui envisagent l'avenir avec optimisme. C'est un livre qui est très compliqué, mais rassurez-vous, à la fin, il y a un glossaire où on nous présente les personnages, où on nous présente les planètes, les noms des lieux, des sociétés, des compagnies, les unités monétaires de ces mondes lointains. Ce sont des personnages qui sont savoureux. En ce sens-là, la comparaison...
C'est un peu compliqué, là.
J'irai pas jusqu'à parler du Seigneur des Anneaux avec Tolkien, mais c'est un peu le même principe. Oui. Il a vraiment voulu créer un univers avec des personnages, des planètes. C'est vraiment très, très, très bon. Les personnages sont sympathiques, attachants, en particulier Ariuk, le personnage principal. Et j'ai d'ailleurs fait rire Yves en lui disant que je serais très certainement tombé amoureux de ce personnage-là s'il avait été réel, si j'avais été dans son monde.
Bon, je te dis, toi, t'en manques pas une. En passant, tu parlais d'un roman utopique, c'est ça? Oui, c'est parce que j'en écrirai, mais je vais écrire un roman sur mes histoires d'amour.
Ah oui!
On n'aura pas le temps.
Un roman utopique, on pourrait écrire la vie de jamais.
En plusieurs tomes, alors, pour toi.
Oui, toi, ça serait peut-être une encyclopédie au complet, mon Tana. Parce qu'on doit aller...
Juste pour conclure rapidement, dire que les images de ce livre-là sont fortes, le rythme est fascinant, les dialogues sont souvent imprévus. Bref, tout se conjugue pour dépeindre une épopée originale et innovatrice. Je vous encourage à découvrir ce livre-là. Ça s'appelle Kamikaze, aux éditions de l'Apothéose. Yves Marchand.
Alors, mon cher Brian, si on écrivait un roman sur ta vie, ça serait un roman utopique?
Je ne suis pas sûr que ce serait très intéressant par moment.
Moi aussi, quelqu'un m'avait dit de réécrire tes mémoires. Je dis, mon Dieu, ça va être plate. Bon,
des conditions meilleures. Oui,
alors justement, allons-y du nouveau roman d'Édouard Louis.
Ah, ben un qui trouve justement que sa vie est très intéressante et il en parle beaucoup.
Il fait plusieurs livres d'ailleurs qu'il écrit sur sa vie, oui.
C'est son septième roman en 10 ans et c'est toujours des romans autobiographiques. Édouard Louis, que vous connaissez peut-être, ce jeune écrivain français qui était surgi en 2014 avec En finir avec Eddie Bellegueule, il nous racontait son enfance.
Un chef-d'œuvre, oui.
Moi, j'avais eu des réserves, honnêtement.
Ah, ouais.
Ah oui, je comprends l'intention, je comprends plein de choses. Il racontait son enfance dans un milieu français, ouvrier, difficile, pauvre, et de la façon dont il s'en était sorti. Lui, maintenant, il travaille dans des grandes universités, il écrit des romans. Transfuge de classe, ce terme dont on a tellement entendu parler l'année
Et
passée
que
avec
je déteste, mais en tout cas, ça, c'est autre
Mais
chose.
c'est ça, mais lui, reste que c'est quand même un peu l'apothéose de tout ça, lui, d'avoir réussi à faire ce changement-là. Mais j'aimais moins, moi, l'espèce de posture un peu supérieure qu'il avait par rapport à sa famille. Beaucoup dans le premier, Eddie Bellegueule, je
Ah
dois
ouais.
dire, d'autres par la suite. Il était plus dans l'explicatif, plus dans la sociologie, il cherchait les causes, pourquoi son père, pourquoi sa mère, pourquoi dans sa famille c'était aussi difficile. Là, il était plus dans l'explicatif, il leur pardonnait, il expliquait des choses. C'était un peu le premier roman, moi j'avais trouvé ça un petit peu. Regardez la belle fleur que je suis qui a poussé dans ce tas de fumier. Mais bon.
Alors parlons du nouveau roman, c'est mieux?
C'est mieux. C'est un peu la même chose. Il le dit, c'est la dernière fois qu'il parle de sa famille. C'est le dernier livre qui parlerait de
En
ça.
autant qu'il fasse pas une Dominique Michel de lui, là.
Bon, ben c'est ça, à suivre. Si vous n'avez pas aimé les premiers, ne le lisez pas. Mais si vous aimez ce style-là, justement, où il analyse sociologiquement, là, il nous parle de son frère qui lui aussi a eu le. Et c'est un peu le comparatif qui est intéressant dans ce livre-là. Son frère est né du même milieu, a été élevé dans la même famille, mais lui ne s'en est pas sorti, a une vie de misère. Il est décédé d'ailleurs. Donc, c'est un peu l'analyse de la vie de son frère qu'il fait dans ce livre-là, comment lui, il s'est effondré, justement. Donc, des relations avec ses femmes, ses blondes qui étaient difficiles. Il a été violent. C'était quelqu'un d'homophobe, quelqu'un qui s'est rapproché des courants plus extrémistes en France vers la fin aussi. Donc, portrait sociologique très intéressant, mais quand même pour Édouard Louis, là, ce serait le temps qu'il nous propose, qu'il sorte un peu de sa famille et qu'il nous propose autre chose. En tout cas, c'est ce qu'il a promis. Ce septième livre-là, c'est toujours aux éditions du Seuil, comme tous les autres. C'est paru cet automne.
Bon, alors, je ne te pose pas la question, mais tu y connais quoi, toi, à l'amour de Vincent Francoeur?
Vincent Francoeur, qui est un Québécois, mais oui, qui publie aux éditions David, c'est une édition de franco-ontarienne, donc à découvrir pour ceux qui veulent voir des maisons d'édition différentes. Il habite à Toronto depuis une dizaine d'années, c'est la raison pour laquelle il fait paraître ça là-bas, mais son roman se passe à Montréal. Au début des années 2000, vous parliez de votre pièce de théâtre où il y avait de l'amitié. On va suivre justement deux amis dans ce livre-là, Justin et Éric, qui arrivent à Montréal après avoir passé leur adolescence à Chambly. Et là, c'est vraiment des romans, ce qui leur arrive, leurs premiers amours, un peu tout ce. Lui, Justin travaille dans un bar de danseurs nus et il retourne au cégep. Et là, on suit ses amours, un peu ses fréquentations et tout. Son coloc, Éric, lui, est dans une relation de domination un peu. Son conjoint est violent. Tout au long du roman, on va suivre un peu cette histoire-là. Donc, c'est un très gros roman, pas autant que celui de Donald à 700 pages, mais ici, on est dans les 500 pages aussi. Un roman qui est fort intéressant parce que c'est vivant, les personnages sont très bien sentis. On parlait de l'histoire des Noirs en début d'émission. Il y a des personnages noirs dans ce roman-là, queer, donc c'est intéressant de voir cette diversité-là. Par contre, c'est un roman très littéral qui ne va pas vraiment dans la subtilité. Quand je vous parlais qu'Éric, par exemple, a un conjoint violent, c'est présenté de manière vraiment pas très subtile. Et je dois dire que quand même, au bout de 300 pages, on a hâte qu'il se passe quelque chose pour qu'il sorte de cette relation-là. Donc, des petits défauts, c'est un premier roman pour le rythme. J'espère que ça va s'améliorer, mais des personnages vivants intéressants là, pour ceux qui ont vécu ces années-là à Montréal, qui ont eu des premiers téléphones flip-flop.
Oui, je vois ça.
Pour la couverture. Donc, vivant, intéressant. Puis ça montre un peu la naïveté, puis toute les beaux espoirs qu'on a quand on est jeune et qu'on arrive à Montréal. Donc, tu y connais quoi, toi, à l'amour? Vincent Francoeur, chez les éditions de David.
Merci, Brian. On va revenir rapidement, toi puis moi, on va revenir au théâtre. On est allé voir une fête d'enfants la semaine dernière.
Oui.
Alors, une fête d'enfants, c'est la nouvelle pièce de Michel-Marc Bouchard.
Oui.
C'est très difficile de faire un résumé de la pièce parce qu'on ne veut pas
vendre
vendre le
parce que
punch.
c'est punch par-dessus punch par-dessus punch. Donc, on.
Rapidement, C'est une pièce, donc, la base de ça, c'est une espèce de recherche de beauté, de perfection pour cacher les failles.
Oui.
Et dans le cas du personnage, qui s'appelle comment, le personnage David, je pense?
David, oui. Et Nicolas qui forment le couple.
Alors, David qui voulait cacher une certaine partie de lui-même, son homosexualité aussi, hein, quand il dit « j'aime pas les gays
oui. »,
et qui a cette recherche de la perfection. T'en as pensé quoi de cette pièce?
Ben, moi, personnellement, j'ai adoré.
Oui.
D'abord, il faut dire que Sylvie Drapeau joue le rôle...
On n'était pas rendu à ses heures.
De la narratrice, en fait, c'est la voisine, Claire, qui assiste à tout ça. C'est Sylvie Drapeau.
Elle nous fait rire et pleurer en dedans de 30 secondes.
Les deux autres acteurs sont excellents aussi, mais François Arnoux vit depuis plusieurs années aux États-Unis. On dirait qu'il y a eu... J'ai eu un petit peu de misère, parfois.
Je trouvais, moi, qu'il déclamait au lieu de dire.
Oui, ouais. C'est ça. Il y avait de la misère à embarquer peut-être parfaitement dans son personnage de jeune Québécois...
Puis, si tu me permets, encore une fois, je vais faire
Nathalie Petrovski.
Ben, j'ai pas beaucoup de temps, il reste une minute à l'émission, mais je vais quand même dire que j'ai trouvé que la mise en scène était un peu froide de Florencio, au point où il y avait des grosses émotions à vivre, puis on ne pouvait pas les vivre à cause
c'est
de
ça.
Cette mise en scène.
Ouais.
Ben, messieurs, je vous déprésente rapidement. Jamais Chtouki et Luc Arsenault du Théâtre de la Comédie de Montréal. Merci à toi, Donald Bilodeau.
Merci.
Et merci à Brian Saint-Louis à Québec.
Pour joindre l'équipe de l'heure où l'arc-en-ciel se lève, écrivez-nous à heureciel@gmail.com, heureciel en un seul mot, @gmail.com. Suivez Denis Martin Chabot sur Facebook et Instagram, @dmchabotauteur et sur LinkedIn, Denis trait d'union, Martin trait d'union, Chabot.
J'ai le temps de dire merci à Godéric Trob, à la recherche, Maurice Bolduc à la mise en onde. Merci à toute l'équipe de Canal M. Je m'appelle Denis Martin Chabot. Je réalise et j'anime cette émission. On se revoit la semaine prochaine.